la voix, le midi.
FM 93, ça me parle.
Ça tombe tellement dru dans le secteur de la rue Saint-Sacrement là et du chemin Sainte-Foy actuellement que on voit à peine dehors, et ce qu'on voit c'est des pauvres piétons dont les parapluies se virent à l'envers tellement ils ventent.
Oui. Le parapluie qui se vire à l'envers.
AccuWeather nous prévoit que vers midi, on devrait avoir une accalmie d'une heure environ.
Ah, merveilleux!
Boum! Vote électronique, voir les résultats du procès, élection municipale 2005, nous écrit un auditeur, j'ai perdu par 12 votes, aucun moyen de vérifier.
À cause d'un vote électronique.
À cause d'un vote électronique. Et le directeur général des élections vient de nous rappeler, il ne fera aucun commentaire, ne donnera aucune information au sujet de l'enquête qui touche la boîte 61 et les élections dans Gaspé.
C'est clair.
Ouais.
Il ne veut pas nous dire combien de temps va durer son enquête.
Le PQ nous a quand même confirmé que la fameuse boîte 61 a été comptée dans le recomptage. T'sais, on ne l'a pas écartée, on l'a comptée.
Ouais. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ça. Je suis convaincu qu'au niveau des partis, il doit en avoir qu'ils savent.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils savent. Il y en a un qui nous dit ne négligez pas la possibilité de l'incompétence crasse aussi. Un scrutateur qui ne sait pas remplir ses papiers, etc. Il semble qu'ils ont de plus en plus de misère à trouver des scrutateurs et des adjoints, là. Puis
autrefois,
souvent,
c'était des postes.
Ça devient un peu le festival de l'âge d'or, là.
Autrefois, c'était des postes qui étaient convoités, ça.
Oui,
là,
mais.
Je me souviens, bon.
C'était
mais
convoité là, quand j'étais étudiante. Parce que c'était, on ramassait de l'argent en deux jours, plus qu'on était capable d'en faire.
Il y avait beaucoup de retraités aussi, Myriam, qui allaient faire ça. Ou des femmes au foyer qui allaient faire ça. Et puis maintenant, c'est des étudiants hein, qui font ça.
Puis encore, ils ont de la misère à en trouver. Ils vont couper leur pré-bourse. Luc, on a reçu hier un communiqué qui m'a fait un peu sourciller. L'assurance automobile au Québec, il faut s'attendre à avoir des augmentations de primes. Et là, on parle de l'assurance vraiment pour la voiture. On sait que les assurances pour les blessures
personne,
corporelles...
C'est le no-fault.
Là, c'est le no-fault et c'est la Société d'assurance auto du Québec.
Voilà.
Mais les assureurs continuent à assurer les voitures et là-dessus, ils nous avertissent, on risque fort d'augmenter beaucoup au cours des prochaines années parce que les pauvres petits font plus d'argent. Il semble que les compagnies d'assurance ne font plus d'argent avec les primes qu'ils nous... Arrête d'essuyer une larme. Je le vois, il essuie une larme pendant que je dis ça. on a au bout du fil quelqu'un qui peut nous expliquer ce qui se passe et pourquoi on émet ce communiqué. Michel Ladéroute est directeur général adjoint du groupement des assureurs automobiles. Bonjour, Monsieur Ladéroute.
Oui, bonjour, Mme Segal, ça va bien?
Ça va bien.
Oui, bonjour.
Vous avez failli me faire pleurer avec votre communiqué? Les assureurs font plus d'argent?
Ben écoutez, nous, ce qu'on peut confirmer, le rôle du groupement, c'est de recueillir des statistiques et de publier des statistiques. Alors, on avait observé pendant une dizaine d'années une baisse, et au cours des dernières années, ben écoutez, il y a un resserrement du marché, les primes recueillies ne suffisent plus à payer les réclamations. Alors, il faut se rappeler un principe en assurance, c'est les primes qui sont payées par l'ensemble des consommateurs qui permettent de verser des indemnités à ceux qui subissent des sinistres.
Dans le fond, c'est un système communiste, les assurances.
mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'accidents?
Ben écoutez, il n'y a pas nécessairement plus d'accidents. C'est évidemment d'un hiver à l'autre, on ne peut pas prévoir. Il y a plusieurs éléments qui influent dans la prime. Il y a évidemment la fréquence des sinistres, donc le nombre de sinistres subis au Québec. Il y a également les frais d'exploitation et les coûts de réclamation de chacun des véhicules qui sont endommagés. Alors oui, effectivement, depuis 3 ans, on a quand même une dizaine d'années de baisse qui s'est terminée en 2015. 2015, on a commencé à avoir une certaine hausse légère. On parle d'une hausse d'environ 6 % sur 3 ans, alors que le coût des sinistres, eux, sur la même période, a augmenté de 8 %. Donc, les assureurs regardent et tout doucement recommencent à augmenter leur prime pour couvrir justement leur frais de réclamation, leur frais d'exploitation.
Mais là, vous avez divisé ça en trois. Donc, il y en a une des trois composantes, c'est les frais d'exploitation. Est-ce que ceux-là ont monté?
Non, les frais d'exploitation sont toujours pas mal similaires. Il faut quand même se rappeler que la concurrence est forte. Il y a quand même un bon nombre d'assureurs qui fait que pendant plusieurs années, les primes ont baissé. Et parce que les assureurs voulaient maintenir ou accroître leur part de marché, donc ils n'ont pas nécessairement augmenté les primes, mais là, c'est rendu à un moment donné où les assureurs se doivent de réagir parce que les chiffres de balance, puis finalement les réclamations et les frais d'exploitation excèdent de façon importante.
Est-ce qu'il y a de la collusion? Je veux dire, est-ce que les compagnies d'assurance se parlent? Je comprends pas, là. Parce que vous parlez au nom d'une association, là.
Oui, effectivement. Nous, le rôle du groupement, c'est de recueillir des statistiques, d'en faire la publication, et on fait ça pour l'ensemble des données pour la province de Québec. Donc, on établit des moyennes. Alors, dans ce contexte-là, non, il n'y a pas de collusion. C'est sûr qu'ils ont publié des statistiques qui sont consultées par autant les consommateurs que les assureurs.
Moi, j'ai un petit inconfort quand on me dit que les assureurs n'arrivent pas avec ce qu'on leur paye, parce que je regarde la somptuosité de leurs immeubles, les endroits où ils ont des immeubles, la richesse des lieux, puis j'ai un peu de misère à me dire qu'ils font pas d'argent.
Écoutez, c'est pas le rôle du groupement, comme je mentionnais tantôt. Nous, le groupement, ce que l'on fait, c'est qu'on recueille des statistiques et je suis pas là pour défendre ce que les assureurs font. Mais par contre, évidemment, dans un contexte comme on mentionnait en ce moment, les sinistres ne cessent d'augmenter. Si on regarde, le coût moyen des sinistres en 2008 était de 2 500 $, 2 600 $, et on est rendu en 2017 à 3 300 $. Alors évidemment, toute la technologie qui se retrouve dans les véhicules, de plus en plus, l'assistance à la conduite, font en sorte que les coûts des réclamations automobiles augmentent. Alors, les assureurs n'ont pas le choix, à un moment donné, évidemment, d'augmenter les primes pour pouvoir être en mesure de payer les sinistres qui surviennent. Il ne faut pas oublier non plus que tous les assureurs il existe des organismes de réglementation et l'autorité des marchés financiers surveille de près la profitabilité, la rentabilité des assureurs et s'assure qu'ils sont en mesure de rencontrer leurs obligations, soit verser des indemnités et payer des sinistres lorsqu'ils surviennent.
Est-ce que vous dites que les sinistres coûtent plus cher qu'avant? Là? Vous dites que ça a augmenté de grosso modo 800 $ au cours des 8 dernières années par sinistre. Mais on scrappe les voitures aussi beaucoup plus vite qu'avant, me semble.
Ben, évidemment, on n'est pas dans les manufacturiers de plus en plus dans les pièces. Il y a plusieurs composantes et parfois, il n'est pas possible de réparer des pièces. C'est un principe que l'on retrouve dans beaucoup de produits de nos jours. Alors, dans certains cas, on n'a pas le choix de remplacer complètement la pièce et non de pouvoir la réparer. Évidemment que ces éléments-là peuvent contribuer à augmenter le coût moyen des sinistres.
Est-ce qu'il se peut aussi que les assureurs, étant donné qu'ils sont des bons payeurs, certains de leurs fournisseurs, par exemple, dans le domaine du pare-brise ou des petites poques de char, paient sur le crayon un petit peu? Il y a un auditeur qui me dit, moi, j'ai payé 325 $ pour remplacer mon pare-brise, puis le même gars facturait 1 200 $ à ma compagnie d'assurance si je le passais sur mes assurances.
Écoutez, nous, dans nos publications de statistiques, c'est pas notre rôle de parler de ces activités-là.
Non, mais ce serait une statistique intéressante. Y a-t-il une grille tarifaire pour les assurances, puis une grille tarifaire pour le monde ordinaire?
Moi, je vous dirais que s'il y en a une, c'est pas dans notre rôle, pas dans notre mandat de faire cette surveillance-là. Mais non, je suis pas en mesure de répondre à cette question-là.
OK. Là, vous dites que l'assureur paye 77 cents en réclamation pour chaque dollar qu'il me ramasse.
Oui, effectivement.
Est-ce qu'il y a des catégories de conducteurs où c'est plus rentable ou moins rentable?
Il faudrait poser la question aux assureurs.
Okay.
C'est évident que... la fréquence des sinistres varie en fonction de différents facteurs, notamment l'âge que l'on a. Donc, il y a différents éléments qui peuvent influencer. Mais je vous dirais que nous, on fait des statistiques et un portrait qui sont disponibles également sur notre site web. Donc, vous êtes en mesure de voir. Et on a effectivement des catégories, des sinistres qui surviennent plus en fréquence à certaines époques de notre vie, mettons.
Quand on est plus jeune
ou peut-être quand on vieillit.
Et on doit s'attendre à des augmentations de quel pourcentage avant de se choquer contre notre assureur automobile?
On n'a pas de boule de cristal, nous, comme vous dites, on n'a pas de boule de cristal, on collige des données, on en fait des publications. Évidemment, on est quand même dans un marché très concurrentiel, donc évidemment, tous les consommateurs ont le loisir de magasiner et de voir avec un autre assureur si ça correspond mieux à son profil de risque qu'il représente.
Est-ce que l'arrivée d'assureurs virtuels, là, un peu comme on a des banques dématérialisées là, qui n'ont pas de bureau, ça commence à arriver, là, les assureurs qui vous assurent, mais vous ne serez jamais capable de trouver leur adresse, leur bureau, leur... Est-ce que ça a un effet à la baisse sur les primes?
Je ne serais pas en mesure de vous dire. Évidemment, tout assureur qui exerce au Québec doit avoir un permis et qui est émis par l'Autorité des marchés financiers. Et par la suite, il doit rencontrer des tests de solvabilité. Donc, il doit être en mesure de pouvoir, doit être capable d'identifier la personne, d'être capable de les contacter. Mais chacun des consommateurs se doit de faire son exercice de vérification lorsqu'il magasine de l'assurance, à savoir si le produit qui est offert sur cet assureur plus virtuel-là lui convient bien.
OK. Merci beaucoup, M. Laderoute.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous deux. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'est le regroupement des... Attends un peu, il faut que je trouve le titre exact. Là. Le groupement des assureurs automobiles qui nous avertit que les primes vont recommencer à augmenter. Ça a augmenté 2 % par année au cours des deux dernières années. Puis ils disent, ben là, on n'arrive plus. On n'arrive plus parce que ça coûte les réparations coûtent plus cher, parce qu'on n'a pas augmenté pendant plusieurs années.
C'est intéressant là, ce qu'il disait sur les réparations qui coûtent plus cher. Mmh. Et sur le fait que, quand tu as posé la question, me semble qu'on scrappe plus vite, là.
Ouais.
La technologie, je veux dire, quand tu fais un petit accrochage, j'y avais jamais vraiment pensé. Ouais. Si tu fais un petit accrochage, puis bon, c'est pas grand-chose, puis il faut changer l'ampoule, puis il faut changer le revêtement extérieur, tout ça. Mais maintenant, de nos jours, il y a des capteurs informatiques qui sont situé partout dans la voiture.
Un pare-choc, c'est plein de senseurs qui fait ouvrir notamment les coussins gonflables.
Exactement. Puis la même chose là, pour tous les systèmes d'aide à la conduite là, qui vous disent qu'il y a quelqu'un qui va vous dépasser à gauche ou qui vous disent que vous êtes trop proche ou les systèmes encore plus poussés et qui sont en train de se retrouver de plus en plus dans des véhicules, disons, de niveau moyen. L'aide à la conduite, c'est fascinant de nos jours. Là. Je l'ai fait avec une Volvo récemment. Là. Prends ça, là, tu mets ton adresse dedans, puis tu pars. Pis,
tu laisses aller, tu laisses tourner le volant, tu fais plus rien.
Oui, sauf que il y a une règle, c'est ce que j'ai compris. Ton système va arrêter de fonctionner, ton système d'aide à la conduite, si tu n'as pas au moins une main sur le volant. L'idée, c'est que on veut pas que la personne commence à lire un livre pendant que la voiture s'en va, on ne sait pas ce qui peut se produire.
Ouais, se faire un café en arrière.
N'importe quoi du genre. Sauf que c'est absolument extraordinaire. Tu vas dire, tu programmes la voiture, puis tu lui dis, bon, moi là, je m'en vais par l'autoroute, dans tel coin, et puis donc tu mets ça là, puis tu dis, je veux pas dépasser 110 km/h, mais maintenant ces voitures-là savent qu'ils sont dans une zone de 50 et dans une zone de 70, je sais pas par quel moyen, mais
les GPS te le disent.
Parce des GPS probablement, je sais pas. Puis c'est écoute, t'es assis dans ton siège, puis la voiture elle s'en va là, puis elle dépasse, puis elle se replace, puis elle fait tout. Alors les technologies qui sont derrière ça, c'est que la carrosserie de la voiture et son châssis, il y en a des capteurs informatiques, électroniques, il y en a partout pour permettre à la voiture d'être aussi précise.
Ça coûte cher.
Ça coûte très cher. Ben, c'est parce que quand penses que bon, j'ai eu mon pare-choc a été un peu endommagé, mais il y a peut-être 3-4 capteurs qui y ont passé en même temps.
Oui, mais attends un peu, là. Si t'as la voiture autonome qui est hyper prudente, en théorie, t'en auras pas d'accident.
Non.
Bon. Ça fait que, en réalité, c'est certainement pas dû à ces technologies-là précisément que ça a augmenté. Moi, je pense que c'est les capteurs pour les coussins gonflables. On a des pièces qui sont moulées, toutes prises avec le véhicule.
Tu as raison, mais moi, je te donnais l'exemple extrême de où on est rendu déjà, là.
C'est ça.
Évidemment, j'imagine que ça va réduire le nombre d'accidents à terme. Hein, puis on est au point de vraiment du véhicule autonome total. Il y a des expériences pilotes en Californie, par exemple, ou sur 10, 15, 20 000 véhicules.
C'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait que, mon Dieu, ils sont malheureux, ils peuvent plus, ils vont devoir augmenter. Il y a de plus en plus de véhicules qui ont toutes sortes d'équipements de sécurité qu'on n'avait pas avant, dont les caméras de recul, dont les détecteurs d'angle mort, etc. Donc, en théorie, on a moins d'accidents.
Normalement, oui.
Normalement, on devrait avoir moins d'accidents.
Sauf que nos infrastructures font tellement pitié que ça peut provoquer des accidents.
Ça se peut.
670... Un trou dans la chaussée, un ci, un ça, bon, ça peut provoquer un accident.
670-9330, si vous avez un commentaire à faire durant l'émission, studio@fm93.com ou encore 25226 par texto. D'ailleurs, par texto, il y a plusieurs personnes qui disent, regarde, le problème, là, c'est les nicknacks entre les assureurs et les débosseleurs.
Ouais,
et
ça,
moi,
c'est...
ça, moi, je l'ai vécu. J'ai eu un accident, quelqu'un qui m'est rentré à l'arrière, là, et j'avais déjà une petite poque sur le char. J'ai dit au gars, bon, ben, tu me réparerais-tu ma petite poque en même temps? Je vais le payer de ma poche. L'assureur va payer la poque arrière. Bon. Là, le gars me facturait 2 000 $ pour réparer la petite poque en avant. Fait que j'ai été voir un autre débosseleur. Lui, il me facturait 1 000. Alors... ils font affaire avec des débosseleurs qui coûtent cher.
Ouais,
qui coûtent deux, dans ce cas-là, qui coûtaient deux fois plus cher qu'un autre.
Oui.
Et ils ne me laissent pas choisir. Autrefois, je pouvais choisir mon débosseleur. Puis là, ils ne me laissent plus choisir mon débosseleur.
C'est, ouais, moi, j'ai eu affaire... ils ont des contrats avec des compagnies comme... je ne veux pas faire de pub à qui que ce soit, là, mais Fix Auto, c'en est un bien connu. Là. Ils ont tout un réseau, puis ils ont des contrats avec les compagnies d'assurance, puis la compagnie te dit, tu vas là. Moi, ce que j'ai noté quand j'ai eu affaire à ça, c'est que ils lésinent tellement pas qu'à un moment donné, ça frise le ridicule, comprends-tu? Moi, la fois où j'avais été chez... en tout cas, peu importe, là, de toute façon, le service avait été excellent, c'est pas ça qui est le problème. Ma fenêtre du côté du passager avait été défoncée pour voler un ordinateur qui a bel et bien été volé. Bon, c'était merveilleux parce que la petite histoire est la suivante. C'était une voiture flambant neuve. Je venais d'aller la chercher chez le concessionnaire. C'était la première fois que je la conduisais. Je me m'étais arrêté au magasin, à la boutique d'Apple pour acheter un ordinateur en cadeau pour la fête de ma fille, qui était étudiante. Et je l'avais déposé sur le siège à côté de moi. Puis j'arrêtais à un restaurant où j'avais fait préparer quelque chose pour le souper. Le souper d'anniversaire de ma fille. Je rentre au restaurant chercher le truc, mettons, imaginons 4-5 minutes max. Ouais. Je sors, paf! La vitre avait sauté, puis il n'y avait plus d'ordinateur.
L'ordinateur était parti, mais heureusement, il n'y avait rien dans l'ordinateur, ce n'était que la machine.
Voilà, c'était juste la machine. Mais d'un autre côté, ce que j'essaie de dire, c'est quand je me suis retrouvé à l'endroit où l'assureur m'a envoyé pour faire les réparations, il lésinait pas. Écoute, la vitre avait cassé. Donc, le siège était en cuir, donc il pouvait y avoir une sorte d'égratignure sur le cuir. Change le siège. Wow!
Au complet?
Oui!
Sainte!
Mais moi, c'est pas moi qui payais, mais je me dis, j'en demandais
c'est
pas tant.
C'est parce que tu
temps,
finis
là.
Toujours par payer. Ce que les assureurs te donnent, tu finis toujours par le payer.
Ben, tu sais.
Bon. Dans les années 90, les assureurs donnaient un rabais d'environ 10 % si les gens suivaient une formation en conduite préventive. Ça n'existe plus.
Oui, mais c'est parce que les gens, maintenant, doivent suivre une formation. C'était une époque où c'était facultatif. Ça ne l'est plus.
OK, j'ai beaucoup de messages sur 25226. On a François au bout du fil. Bonjour, François.
Oui, bonjour. Simplement, vous informer que, comme consommateur, vous avez toujours le droit de choisir votre carrossier pour faire réparer votre voiture. Effectivement, les compagnies d'assurance disent « Votre voiture va être envoyée à tel endroit, mais vous avez le droit de choisir votre carrossier. » Ben, ça m'est arrivé... Je connais un carrossier qui fait un excellent travail et puis très consciencieux. Puis pas question que mon véhicule aille ailleurs. Et puis ça a fonctionné, aucun problème.
Ah ouais, parce que
bon
moi je me suis fait chicaner la première fois par ma compagnie d'assurance parce que j'allais spontanément chez mon concessionnaire automobile là. Je me suis fait chicaner, c'est trop cher, j'ai dû m'ostiner. Ils m'ont laissé choisir cette fois-là, mais la fois d'après là. Là, ils m'ont dit, regarde, on a mis dans le contrat que c'était là que tu allais.
Non, vous avez le droit de choisir.
Merci de l'avoir. Merci.
Au revoir.
Il y en a plusieurs qui disent qu'un des problèmes, c'est effectivement les ententes. Tu vois, il y a une grille différence entre les assurances et les clients qui désirent payer sans passer par l'assurance. Exemple, 260 $ poser un pare-brise, taxes incluses, et par les assurances, 750 $ avec taxes pour son modèle de voiture.
Oui.
Moi, j'ai renoncé.
Y a-t-il un jeu de ristourne dans ça aussi, c'est ça?
Oui, il y aurait un jeu de ristourne d'après certains auditeurs, effectivement. Pare-brise payé de ma poche 400 $, à l'assureur 1100 $.
Wow.
Et moi, j'ai renoncé à assurer mes pare-brises. D'abord, au kilométrage que je fais, j'en brise un par deux ans, là. Puis ça fait partie des réparations.
Comment tu fais pour briser un pare-brise, toi?
Je reçois des morceaux dans vite. Je reçois des morceaux de... Ça arrive surtout au printemps ou à l'automne quand le sel, tu sais, quand le sel et le sable se sont agglutinés, oui. Puis que la sableuse n'arrive pas à tout défaire, là. Là, il reste des garnottes sur le chemin, puis là, ça revole. Pouf, pouf, pouf. tu croises un camion, paf, une étoile est née dans mon pare-brise. Ça arrive tout le temps. Mais j'ai renoncé aux assurances. Je le paye de ma poche. Je trouve ça beaucoup plus simple.
Ouais.
Il est 11h45.
C'est Gal Lavoie, le midi.